Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un chef? C'est une question que nous allons aborder dans les deux parties de la Grande Table aujourd'hui. À partir de 12h55, on va prendre un peu de hauteur hiérarchique avec un général d'armée, le général De Villiers, qui sera notre invité. Il se définit, lui, comme un praticien de l'autorité. Certains en appellent à lui pour aider l'exécutif à entendre la voix des Gilets jaunes. Rendez-vous donc avec le général De Villiers à partir de 12h55. Mais d'abord, il est en ce moment Simon Boccanegra à l'Opéra Bastille, ancien corsaire devenu doge de Gênes, un opéra de Verdi sur une mise en scène de l'Espagnol Calixto Bieto. Le baryton Ludovic Tézier est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Bonjour Ludovic Tézier.
Bonjour.
Ce Simon Boccanegra, personnalité ambivalente, avec des aspirations contradictoires, qui le tiraille, qui le travaille, ancien corsaire, je le disais, devenu doge de Gênes, quel chef est-il à vos yeux?
Quel chef est-il? Et c'est un chef qui évolue en tout cas. C'est d'ailleurs, à mon avis, peut-être le propre de ce que moi je trouve être un bon chef, un meneur, c'est sans doute de un petit peu sentir le terrain et s'adapter aux choses. C'est un petit peu le cas de Simon, mais Simon, bien sûr, est un mélange d'action politique, c'est une évidence, et d'action personnelle qui touche à l'intime. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il trouve, j'ouvre d'énormes guillemets, une solution, il propose une solution politique de réconciliation, après, j'allais dire, la résolution d'un traumatisme qui le hante depuis des années, la perte de cet enfant, le décès de la mère de son enfant, et donc ces retrouvailles improbables qui lui tombent dessus un petit peu comme ça au hasard et qui lui font réaliser que dans le monde, on va dire, pour simplifier, tout est vanité, que seule la réconciliation et la concorde peuvent mener à quelque chose. C'est un petit peu le propos du message de Simon et bien évidemment du message de Verdi. On l'aura compris à l'époque, ça a été composé, l'Italie était, elle, plutôt décomposée. Et donc voilà, le message de Verdi était clair. Lui-même, d'ailleurs, avait traversé des souffrances familiales terribles. Et voilà, je crois qu'il envoie ce message de concorde qui est extraordinaire, avec une musique qui est à l'avenant.
Oui, on dit que dans cet opéra, Verdi y a mis beaucoup de ses idéaux politiques à lui. Fédérateur, pacifiste, Simon Boccanegra, un chef au cœur d'une tempête politique. On est au 14e, la République de Gênes est déchirée sur fond de lutte fratricide entre patriciens et plébéiens et d'insurrection populaire. C'est une intrigue tissée de complots, de tentatives d'empoisonnement, de promesses non tenues, de fidélité nouvelle, d'union avortée, de succession annoncée et de réconciliation espérée. Extrait de l'acte 1, Simon Boccanegra, le réconciliateur. Il n'a qu'un mot à la bouche, paix.
Thank you.
Cette question du chef, Ludovic Thésier, elle prend forme dans le rôle de Simon de Boccanegra que vous tenez aujourd'hui sur la scène de l'Opéra Bastille. Quelle épaisseur avez-vous voulu donner à ce personnage? Comment l'incarner?
Grande question. Je crois que, en fait, comme je disais tout à l'heure, la vie politique de Simon, ce qu'on en entrevoit en tout cas, est extrêmement sous-tendue. Le livre est assez clair là-dessus par ce qui lui arrive dans le privé, puisqu'il s'engage à être doge à Gênes, finalement pour être digne d'épouser donc Marie, la fille de Fiesco. Donc c'est un problème social, je vais dire. Lui est encore serf de la plèbe. Elle ne serait pas digne aux yeux de Fiesco d'épouser donc sa fille. Et en acceptant donc cette charge, il espère finalement obtenir ce mariage. Et bien évidemment, lorsqu'il s'aperçoit que cette jeune femme est décédée, ce qui rajoute encore une douleur puisqu'il a perdu, on lui a enlevé l'enfant de leur union. Il est désespéré. Il plonge, j'allais dire, dans la politique après avoir accepté cette charge de manière un petit peu froide, un peu dure, un peu fermée, et c'est la retrouvaille avec cet enfant qui finalement le ramène à lui-même, à ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement humain, humaniste en tout cas. Donc finalement, aborder ce personnage, on l'aborde vraiment par l'être intime, puisque c'est cet être intime qui finit par le changer en politique, qui finit par le faire évoluer dans sa vision politique des choses. Donc c'est le biais que j'ai utilisé. D'autres auront choisi le biais plus hiératique de cette grande scène qu'on vient d'entendre et qui en feront peut-être un doge un peu autoritaire, un petit peu le père de la nation. Je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, si on lit vraiment le livret tel qu'il est écrit dans l'ordre des choses, c'est quelqu'un qui souffre de sa charge et qui s'en libère à ce moment-là, au moment qu'on vient d'entendre, en appelant finalement encore une fois à la concorde. Donc cette épaisseur-là, c'est stratifié, mais si on l'attaque, je veux dire, par le fond, par la fondation du rôle, tout se construit assez bien.
Mais ce fardeau, il le porte aussi. Et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage. On va revenir sur l'importance de la voix pour incarner Simon Boccanegra, les accents que vous lui donnez. Mais il y a aussi la question du corps, un corps qui se métamorphose hein, tout au long ou tout au fil de cet opéra, de cette pièce, parce qu'il doit à la fois affronter ses fêlures, ses faiblesses, mais aussi incarner ce pourquoi il a été élu, ce personnage. Et donc votre corps est aussi très mobilisé dans cette interprétation, oui, de Simon Boccanegra.
Oui, déjà, de toute façon, entre le prologue qui se passe une vingtaine d'années avant l'acte 1, il y a forcément une mobilité qui se réduit sensiblement, puis il y a un accablement aussi de la destinée qui fait que l'homme a vieilli peut-être prématurément, en tout cas, voilà, qui se déplace, j'allais dire, plus comme un désespéré ou quelqu'un qui est en dépression que comme quelqu'un qui est vraiment conquérant et en pleine force. Donc il faut un petit peu jouer là-dessus. Et bien évidemment, au-delà de ça, après il y a la mort qui s'étire extrêmement longuement, puisque c'est une mort par empoisonnement, et où il faut arriver à créer une progression qui nous amène au final sublime que Verdi a composé. Donc oui, il y a effectivement beaucoup à jouer, beaucoup à créer. C'est assez fatigant à la fin de la soirée. Voilà, on sait qu'on a été en scène, oui.
Vous êtes l'une des voix de Verdi, Ludovic Thésier. Vous avez joué plusieurs de ses opéras, le Comte de Luna dans Le Trouvert, le Marquis de Posa dans Don Carlos, Giorgio Germont dans La Traviata, Rigoletto, Macbeth, Iago dans Othello, et aujourd'hui Simon Boccanegra. Verdi vous fascine tout particulièrement. Est-ce que vous vous définiriez comme un baryton verdien? Je vous propose d'écouter la définition qu'en fait le critique musical Jean Cabourg. Il parle du livret du Verdi librettiste, mais aussi de la mise en scène du baryton Verdi dans Simon Boccanegra.
Le meilleur librettiste de Verdi a toujours été Verdi. Verdi qui était un véritable dictateur quant au choix des mots, quant au choix des vers, quant au choix des découpages, et qui ne laissait jamais ses librettistes naviguer seuls. Boccanegra est un des opéras, effectivement, les plus curieux, les plus insolites, par sa profondeur psychologique. Songez que c'est un opéra qui se termine pianissimo, ce qui est le meilleur moyen de faire un fiasco au théâtre. Verdi a d'une certaine façon, violé les critères vocaux de l'époque précédente, mais il a surtout mis en avant un nouveau type vocal qui est le type du baryton, qu'on appelle depuis le baryton Verdi. Le baryton Verdi, c'est effectivement la créature la plus proche du cœur de Verdi. C'est l'homme d'une certaine, à la fois sagesse et d'un certain déchirement. C'est l'homme d'un certain équilibre, en tout cas. Et plus que d'autres types vocaux, le baryton fascine Verdi. Et Simon Boccanegra est de tous les barytons Verdi peut-être le plus complexe, le moins facile à saisir.
Voilà, on en revient à cette créature et à cette particularité du baryton Verdi. Vous l'expliqueriez comment ?
Pour un peu paraphraser, lorsque Jean Cabour dit que le meilleur librettiste de Verdi, c'est Verdi, je dirais que le baryton Verdi, c'est Verdi. Et il a la complexité du compositeur, il en a le côté terrien, profondément enraciné, il en a le côté idéaliste, violent parfois, noir aussi. Il est un père blessé très souvent. Donc c'est quelque chose, finalement c'est un petit peu délicat de parler de baryton Verdi en tant que vocalité, ce qu'on fait souvent, je crois que c'est une erreur. Le baryton Verdi est finalement un chanteur qui doit être capable d'exprimer à peu près tout ce que Verdi peut mettre dans une partition de passion, de couleur, de violence parfois, et de théâtralité surtout. Parce que Verdi, effectivement, était derrière ses librettistes parce qu'il est épris de théâtre et de théâtralité. Et donc il faut respecter ça, il faut en avoir conscience quand on chante Verdi. Et ce qui fait qu'on devient baryton Verdi, c'est la capacité, si ce n'est le goût, mais déjà la capacité d'expression de ce genre d'émotion extrêmement puissante, parce que la musique de Verdi est extrêmement pénétrante, extrêmement contrastée. Et c'est beaucoup plus ça que la couleur même qu'on associe à ce baryton, qui est une couleur que tout le monde a un petit peu dans l'oreille, cette espèce de grosse voix qui teinte, qui sonne.
On l'entend bien, là.
Mais qui est nécessaire, j'allais dire, à un moment donné, pour exprimer, par exemple, ce qu'on a écouté tout à l'heure. Mais d'un autre côté, si on n'a que ça, on devient, j'allais dire, joliment minéral, mais point final, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, sont les facettes, ça n'est pas le cube, et c'est plus énigmatique qu'intéressant pour moi. Moi, ce qui me plaît, c'est justement les choses qui accrochent la lumière de manière différente selon comment on les tourne. Et le baryton Verdi, c'est ça. C'est être baryton Verdi, c'est être capable d'exprimer très modestement, parce que je crois que personne n'arrivera à 100% à exprimer la richesse de toutes ces partitions, mais en tous les cas, c'était être quand même capable ou tendre à la capacité à exprimer la complexité de l'œuvre de Verdi. Et ça, c'est une gageure. Ça n'est pas qu'une histoire de voix, c'est une histoire aussi de maturité humaine, par exemple.
Ça, c'est intéressant, parce que justement, dans cet opéra Simon Boccanegra, il y a une voix de femme, celle de Maria Amelia. Il y a quelques voix féminines aussi dans le chœur, mais globalement, c'est vrai que c'est un opéra d'hommes.
Oui.
Le grand-père Fiesco, c'est une basse. Le père, vous, Simon Boccanegra, un baryton. Le jeune premier, Gabriele Adorno, un ténor. On voit que les différentes tessitures sont utilisées là par Verdi pour donner aussi une idée de l'âge des protagonistes et des générations. Vos rôles à vous, Ludovic Tézier, vous pensez qu'ils vont grandir, vieillir, si j'ose ce mot, avec votre voix?
Oui.
De la même manière qu'elle s'enrichit avec les années et les expériences que vous avez vécues?
Oui, jusqu'à ne plus s'enrichir et jusqu'à décliner doucement. Et c'est une jolie métaphore de la vie. Et ce qui est intéressant dans la vocalité de baryton, c'est que cette espèce d'apogée arrive, j'allais dire un peu sur le tard, vers la cinquantaine, là où le reste commence à être moins brillant. Et finalement, on se rattrape vocalement, donc c'est quand même sympa. Et c'est vrai que c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que Verdi a été tellement fasciné par la vocalité de baryton, c'est que il y a une conjonction entre la maturité vocale chez le baryton et la maturité humaine. Une voix de ténor, en principe, est mature beaucoup plus tôt qu'une voix de baryton. Mais forcément, ça colle à un caractère qui est beaucoup plus jeune, juvénile donc, et moins profond, oui, mais profond parce que l'expérience de la vie nous rend profond. Hein. Donc c'est vrai que Verdi, je pense, a une fascination pour ce type de voix, qu'est la voix de baryton, parce qu'elle, en même temps, c'est la voix de la maturité de l'homme. Et donc, pour incarner les grands personnages, vous parliez tout à l'heure de Macbeth, vous imaginez incarner Macbeth à 20 ans, c'est idiot. Ça ne marche pas. On peut composer éventuellement si on a un énorme talent. On ne peut pas, à mon sens, habiter de tels rôles quand on est trop jeune. Et là, comme je disais, il y a une coïncidence fascinante entre la maturité vocale du baryton et la maturité de l'homme.
Donc vous, après avoir habité Onéguine, Boccanegra et tant d'autres, vous êtes un homme mature, comme votre voix.
En maturation, en tout cas. Ça laisse encore un petit peu de chemin devant. Mais bien évidemment, la vie fait que, et pour tout le monde, on a emmagasiné à mon âge pas mal de visions, pas mal d'expériences, pas mal de sentiments, de réflexions. Et bien évidemment, on ne chante pas tel rôle comme on le chante à 30 ans ou à 50 ans. La manière d'exprimer les choses ou même d'envisager tel personnage évolue parfois considérablement.
Vous avez envie de vous échapper parfois. Vous jouez des rôles de père, de mari, de frère, parfois même des rôles de méchants, hein, comme le Scarpia dans Tosca, volontiers.
Bah oui.
Vous avez envie d'aller vers du plus léger. Est-ce que votre voix vous y autoriserait aussi vers de
l'opérette ? Paradoxalement, pour moi, Scarpia, c'est un rôle plus léger parce que finalement, c'est assez loin, et Dieu merci, assez loin de moi. Donc Scarpia, comme tous ces rôles de gros méchants, vous savez, avec le sourcil qui se relève, une espèce d'ordure très sympathique. D'ailleurs, tout le monde aime bien Scarpia. C'est tellement rassurant d'avoir un type qui ressemble au vrai méchant tel qu'on se l'imagine. Et c'est assez intéressant à jouer. Mais vous voyez, j'utilise le mot jouer. On joue les méchants. Si on incarne un méchant, c'est compliqué. Il faut aller consulter un psychiatre à la fin parce que ça veut dire qu'on a des choses très très lourdes en soi. Moi, j'adore composer à la scène, que ce soit un personnage un peu loufoque, par exemple comme j'ai pu le faire il y a des années dans l'Élixir d'amour, le personnage de Belcor, qui est une espèce de belâtre qui est très égocentrique et qui en devient ridicule, donc très amusant. Et Scarpia, c'est pareil, c'est du même registre. Il faut composer quelque chose, il faut y trouver des tics, il faut y trouver des tares, et c'est très passionnant. Mais pour le coup, c'est plus léger que Rigoletto, où on existe humainement beaucoup plus fort dedans.
Des tics et des tocs dans Simon Boccanegra aussi. Vous dites que vous avez de toute façon l'intention de continuer à chanter absolument dans toutes les langues aussi.
Ah oui.
Ici, c'est en italien. On évoquait cette palette incroyable du personnage de Simon Boccanegra aussi dans ses conflits intérieurs et notamment autour de sa conception de l'amour paternel qui aussi navigue, puisqu'on est aussi sur une thématique maritime et ancrée par la mise en scène dans un port, entre douleur, bonheur et tendresse. Extrait toujours de l'acte 1 où vous êtes en duo avec Maria Agresta. Simon Boccanegra, Ludovic Thézier, c'est le drame verdien dans toute sa splendeur, d'une intensité sans faille dans lequel lui a trempé la plume aussi dans ses blessures personnelles. Vous l'évoquiez, il a perdu sa femme et ses enfants, mais il projette aussi dans cet opéra toute sa force de vie. Malgré les drames personnels, les drames de la vie, vous diriez qu'en aucun cas, et cette œuvre l'illustre, c'est un compositeur désabusé. Vous ne trouvez pas de trace d'une amertume dans cette pièce-là, plutôt celle d'un humanisme?
Je ne sens pas d'amertume, en fait, dans Simon. S'il y en a, elle est tout au début, mais ce qui est intéressant, bien évidemment, dans le propos de Verdi, ce n'est pas le début, c'est la conclusion, qui est une conclusion finalement extrêmement apaisée, notamment grâce au fait qu'elle a pu retrouver donc cette fille qu'il pensait perdue, morte. Et là, d'ailleurs, c'est un moment très touchant de la partition, puisque c'est finalement les retrouvailles dont finalement Verdi a peut-être rêvé ou par rapport à sa propre fille qu'il a perdue. Et donc c'est très touchant, c'est un moment de musique qui est assez bouleversant. Mais la conclusion de Simon, tout à l'heure Cabourg le disait très justement, et pianissimo, et c'est une conclusion de paix, c'est une sublimation de la mort, où il a encore le temps, bien évidemment, d'indiquer ses ordres, son testament, de manière orale, et c'est un testament d'ailleurs assez paisible, de réconciliation totale, et là-dessus il peut s'en aller vers celle, finalement, qu'il a cherchée toute sa vie durant, cette Maria qui a disparu sans qu'il ait jamais pu l'épouser. C'est une vision assez apaisée, justement, des choses. Je ne sens pas d'amertume, en tous les cas, en conclusion de l'œuvre, et c'est bien essentiel.
C'est une pièce, Ludovic Thézier, qui est entrée tardivement au répertoire de l'Opéra de Paris en 78, opéra peu connu ou moins connu du grand public, du répertoire de Verdi. On va vraiment faire sa connaissance avec Simon Boccanegra à la fin des années 70, à travers la vision qu'a porté le duo Claudio Abbado et Giorgio Strehler sur cette pièce. Le chef d'orchestre italien Abbado, qu'il a porté de Salzbourg à Florence et qui a réellement contribué à sa reconnaissance, voire à la renaissance aussi de cette pièce, lui disait que c'était l'œuvre d'une vie pour lui. Est-ce que vous pensez que vous la porterez longtemps en vous?
J'espère le plus longtemps possible. Là, en ce moment, je réalise mes débuts dans l'œuvre scéniquement à l'Opéra de Paris et j'espère que j'aurai la chance vocale, puisque finalement ça tient beaucoup à ça, de pouvoir maintenir cette œuvre à mon répertoire le plus longtemps possible, histoire de pouvoir la maturer aussi et d'évoluer à l'intérieur de ce rôle extraordinaire. C'est chanter Simon Boccanegra, c'est aussi, pour aller dans le sens de ce que disait le merveilleux Abbado, chanter Simon, c'est côtoyer Verdi de manière extrêmement intime. On est avec lui pendant 2h30, 3h en scène, à partager quelque chose de très profond de sa vie, et il nous parle toute la soirée en tant qu'interprète, et c'est très très fort.
Et chanter, c'est un don, ça c'est ce que disait Michel Danse, écoutez-le.
C'est ce qui étonnait un peu les gens, que je puisse aborder ces ouvrages différents, dans des styles différents. Seulement, je dois reconnaître que j'ai eu un don peut-être exceptionnel. J'en profite, je préfère que ce soit moi qu'un autre. Et j'ai donc une facilité que d'autres chanteurs n'ont pas. Et deuxièmement, ayant fait de la comédie par amour pour une jeune fille que je suivais et qui s'était inscrite dans une classe de comédie, j'ai donc fait 2 ans de comédie pour être plus près d'elle, sans savoir qu'un jour ça me servirait dans ma carrière. Carrière que je n'ai jamais prévue. Quand j'ai commencé le chant parce que dans ma famille, tout le monde chantait. Mon père avait une très jolie voix de ténor léger. Ma mère avait une voix ravissante et elle était modiste. Et moi, tout bambin, je l'écoutais, la bouche béate d'admiration et les oreilles surtout grandes ouvertes. C'est tellement magnifique que j'ai été un peu vacciné, si vous voulez, pour chanter également.
Michel Danse, que vous citez souvent comme l'un de vos modèles, Ludovic Thézier.
C'est ouais. Amusant d'écouter Michel là, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'était surtout le professeur de ma prof. Donc il y a une filiation. C'est très juste ce qu'il dit. C'est pas du tout immodeste, parce que Michel Danse, c'est un chanteur insensé. C'est quelqu'un la ligne de chant de Michel Danse, la projection de Michel Danse et la diction de Michel Danse, c'est, oui, comme dirait un ami dont je rougirais en disant qu'il a dit ça à mon propos, ça ferait croire que Dieu existe quand on entend Michel Danse. Parce que c'est juste, c'est une évidence, pour faire une jolie rime quand même.
Une dernière question de ce don, de cette facilité que vous avez, Ludovic Thésier, et vous êtes l'un, si ce n'est le plus grand de nos barytons aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la tournez uniquement vers le public, entièrement, ou est-ce que vous la tournez aussi vers ses œuvres, vers les compositeurs que vous chérissez? Vous vous présentez souvent comme un gardien. Donc vous restez aussi un gardien de ce temple-là?
Pour moi, c'est important, mais la porte en est ouverte. Le gardien, ça n'est pas derrière des verrous. C'est quelque chose qui finalement surveille que tout se passe bien et que l'œuvre elle-même soit respectée, mais il faut la présenter de manière la plus communicative possible. Donc c'est très important pour moi, lorsque je chante, d'arriver non pas à convaincre, on n'est pas là pour convaincre, mais d'arriver à faire une proposition qui atteigne l'autre. Et l'autre, très souvent, et notamment en ce moment, en a besoin. Donc à ce niveau-là, c'est partager un besoin. Moi, le besoin d'exprimer une musique que je côtoie tous les jours avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Donc c'est un très joli moment, et c'est très rare finalement dans une vie d'homme, quel qu'il soit, d'arriver à partager cela avec, comme à Paris, 2500 personnes en même temps. C'est formidable.
Vous étiez hier soir sur la scène de l'Opéra Bastille. Oui. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous y serez encore ce soir et jusqu'au 13 décembre pour ce Simon Boccanegra. On vous retrouvera aussi dans la Traviata de Verdi. Nouvel an, le vôtre, vous le passerez à l'Opéra. Mm-hmm. Puis de nouveau, la Traviata qui sera reprise l'an prochain.
Oui.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Merci.